Je sais pas pour vous, mais je me rappelle pas avoir déjà rencontré quelqu'un qui a visité Barcelone et m'a dit s'être rendu à la basilique cathédrale de la Sainte-Croix et de Sainte-Eulalie. Pourtant, c'est un édifice qui n'est pas inintéressant. Cathédrale de style gothique construite entre le 13e et le 15e siècle, grandement modifiée depuis. Le site est occupé par des basiliques et des églises depuis pratiquement les tout débuts de la chrétienté. C'est le siège de l'archevêché de Barcelone. Techniquement, c'est supposé être la grande église de la ville. Malheureusement pour elle, Sainte-Croix et Sainte-Eulalie vit dans l'ombre d'un autre temple, la fameuse Sagrada Familia, visitée par 100% des gens qui passent par Barcelone. Et la Sagrada Familia a une histoire fort intéressante, quoique très courte, de par les standards des grandes églises d'Europe, elle est encore toute neuve. D'abord, petit point sémantique, même si on l'entend et on la voit souvent désignée comme telle, la Sagrada Familia n'est pas une cathédrale. Une cathédrale, c'est le siège d'un diocèse, comme je le disais il y a un instant, celui de Barcelone est basé à Sainte-Croix et Sainte-Eulalie. Techniquement, la Sagrada Familia, c'est un temple expiatoire, ce qui veut dire destiné à commémorer un acte de réparation d'un péché envers Dieu ou un manquement aux lois ecclésiales, selon la définition du dictionnaire. La construction a été lancée quelques années après celle du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, qui est expiatoire lui aussi. En 2010, la Sagrada Familia a reçu le titre de basilique mineure, titre conféré par le pape. On peut donc parler d'un temple, d'une basilique, mais pas d'une cathédrale. L'idée de bâtir cette non-cathédrale viendrait d'un religieux, aujourd'hui canonisé de la communauté autonome de Catalogne en Espagne, nommé José Manyanet. Il avait une dévotion particulière pour la Sainte Famille et a lancé l'idée d'un temple consacré à la Sainte Famille, donc la Sagrada Familia, autant en espagnol qu'en catalan, à Barcelone. L'idée est reprise par un libraire barcelonais, José María Bocabella, qui fonde l'Association des dévots de Saint-Joseph pour ramasser des fonds en vue de la réalisation du projet. En 1881, on achète un terrain. Certaines sources disent que l'espace était destiné à la construction d'un hippodrome qui n'a jamais vu le jour, et c'est ce qui fait qu'on disposait d'un grand terrain comme celui-là, mais il semble y avoir un flou par rapport à ça. L'année suivante, l'évêque de Barcelone pose la première pierre et on commence la construction du temple en ne se doutant probablement pas qu'il faudrait près d'un siècle et demi pour la compléter. On engage un architecte nommé Francisco de Paula de Villar y Lozano. Il prévoyait construire un édifice néo-gothique qui est à mille lieues de ce que la Sagrada Familia est devenue. Très vite, il y a des accords entre l'architecte et le promoteur Bocabella. Ce dernier avait visité l'Italie et voulait une basilique comme celle qu'on retrouvait à Lorette, dans la région des Marches, la basilique de la Sainte Maison. On l'appelle ainsi parce qu'on y retrouve ce qu'on prétend être la maison de jeunesse de Jésus, transportée par des anges depuis Nazareth jusqu'à l'Europe, prétendument. Pierre se retire du projet, de tout ce qu'il avait imaginé, seule la crypte a vu le jour. On décide de confier la direction des opérations à un tout jeune architecte dont le nom est à jamais lié à la ville de Barcelone, Antoni Gaudí i Cornet. Gaudí naît en 1852 en Catalogne, il étudie l'architecture à Barcelone et il faut toujours se méfier des citations historiques, je l'ai déjà mentionné ici. Elles ont rarement été dites de la manière dont elles nous sont rapportées. Mais il semblerait que le directeur de l'école d'architecture a dit « Nous avons accordé un diplôme à un fou ou à un génie, le temps nous le dira. » Mais si M. le directeur a vraiment dit ça, il avait vu juste, parce que Gaudí, c'est un esprit, comme on n'en rencontre pas tous les jours. Son travail est influencé par le néo-gothisme, par l'art nouveau, on a parlé de modernisme catalan, mais en fait, c'est un style gaudiesque, c'est très personnel, c'est inspiré par la nature. Et il y a très peu d'angle droit dans ce que fait Gaudí. Il y a beaucoup de courbes, il y a beaucoup d'asymétrie. Lorsque Gaudí est engagé en 1883, on ne peut pas dire que c'était une figure incontournable, un architecte qui jouissait d'une grande renommée personnelle. Il avait signé les réverbères de la Place Royale de Barcelone, une vitrine, des kiosques, des décorations d'église. Il avait dressé les plans d'une maison, la Casa Vicens, qui était alors en cours de réalisation. Mais à défaut d'avoir une longue feuille de route, il avait une vision pour un temple qui ne ressemblerait à rien d'autre. La Sagrada Familia telle qu'il l'envisageait compterait 5 nefs, une croisée, une abside, un déambulatoire extérieur, 3 façades qui rappelleraient 3 moments de la vie du Christ, sa naissance, sa mort et sa résurrection, sans parler des 18 tours consacrés aux 12 apôtres, aux 4 évangélistes, à la Sainte Vierge et la pièce maîtresse, la Tour de Jésus, haute de 172,5 mètres. Il n'est pas nécessaire de connaître tout le vocabulaire de l'architecture pour comprendre qu'il s'agissait d'un projet extraordinairement ambitieux. Et de ce point de vue-là, la Sagrada Familia s'inscrit dans la tradition des grandes cathédrales dont l'Europe s'est dotée au Moyen Âge. Ces bâtiments-là étaient construits par étapes, sur plusieurs siècles, au gré de la générosité des rois et des gens du peuple, avec de longues pauses causées par des guerres ou des crises économiques. Gaudi, d'ailleurs, était tout à fait conscient qu'il ne verrait pas son œuvre complétée. Et dans ce contexte-là, on aurait pu être tenté de construire la partie centrale de la Sagrada Familia d'abord pour qu'on puisse l'utiliser comme église et ensuite de ça, aller vers l'extérieur, ajouter les éléments qu'on pourrait dire plus décoratifs. Rappelons-nous notre cher stade olympique. On a réussi de peine et de misère à avoir le stade en lui-même pour les Jeux de 1976. Mais on était allé à l'essentiel. Il n'y avait pas de toit, il n'y avait pas de tour. Ça a été ajouté par la suite. Et dans le cas du toit, il a été ajouté et ajouté et ajouté encore. Mais là, je m'éloigne de mon propos. Gaudi n'a pas voulu construire de manière à ce qu'on puisse se dire après son décès, ça coûte cher, c'est long, on a une église fonctionnelle, on va construire la moitié du projet initial et ça va être en masse. Il s'est assuré que le produit final ressemblerait à ce qu'il avait envisagé. De son vivant, l'architecte a vu une des trois façades, celle de la Nativité, et une des 16 tours être complétée. On est encore très loin du compte en juin 1926, lorsqu'il décède, 3 jours après avoir été frappé par un tramway. L'architecte est enterré dans une des chapelles de la crypte de sa basilique. Un de ses adjoints, Dominique Sugranyes, lui a succédé pour les 10 années qui ont suivi, mais en 1936, on rencontre 2 problèmes. D'une part, c'est le début de la guerre civile espagnole qui, combinée à la Seconde Guerre mondiale, force un arrêt prolongé des travaux. Mais d'autre part, un groupe d'anarchistes anticléricaux a incendié l'ancien atelier de Gaudi et beaucoup d'ébauches et de maquettes ont été détruites. On a pu en récupérer une partie, mais il y avait des vides à remplir. Ça a été un travail extrêmement complexe. Beaucoup de débats entre architectes pour trouver la bonne manière de compléter la vision du maître. Ceci dit, il y a certains éléments du design que Gaudi n'avait pas complétés, des éléments dont la construction se trouvait tellement loin dans le futur qu'il préférait laisser ses successeurs mettre leur touche. C'est le cas notamment de la 3e façade, celle de la gloire, qui est la façade principale, construite dans les années 2000. La 2e façade, pour sa part, avait été bâtie entre les années 1950 et les années 1970. Date importante dans l'histoire de la Sagrada Familia, le 7 novembre 2010, le pape Benoît XVI a consacré l'édifice 128 ans après la pose de la première pierre. Et ça soulève la grande question, quand terminera-t-on la construction de la Sagrada Familia? On a annoncé en mars 2024 que ce serait terminé en 2026 pour le centenaire du décès d'Antoni Gaudi, c'est l'immense Tour de Jésus qui serait complétée en dernier. Toutefois, il y aura encore des éléments de décoration à terminer. Il y a aussi toute la question de l'entrée monumentale qu'on veut construire pour laquelle on souhaite exproprier et démolir 2 pâtés de maison. Ça ne sera pas complété en 2026. Il y a une forte opposition au projet. Et je vous parlais des plans et des maquettes qui ont été détruits. Un des arguments utilisés par les opposants, c'est que ce grand escalier qu'on veut bâtir pour mener à l'entrée principale ne faisait pas partie du projet tel qu'imaginé par Gaudi. Les promoteurs, eux, disent que oui, bref, beaucoup de gens essaient de parler au nom du défunt. Ceci dit, le tourisme de masse qu'on connaît de nos jours, ça a de nombreux côtés négatifs. Point de vue environnemental, les pénuries de logements dans les grandes villes exacerbées par les Airbnb de ce monde. Mais les touristes qui prennent Barcelone d'assaut assurent un financement régulier pour la construction de la basilique. Autrefois, on se fiait sur les aumônes des pèlerins et sur les donations d'individus fortunés, comme par exemple Eusebi Güell, grand mécène de Gaudi pour qui l'architecte a conçu notamment le parc Güell, autre lieu emblématique de Barcelone. Je note au passage que Güell, un des hommes les plus riches d'Espagne, avait hérité de l'énorme fortune accumulée par son père, notamment en faisant le commerce des esclaves à Cuba. Et j'ouvre une parenthèse très rapide. ces individus qui font construire des musées, des hôpitaux, peu importe quel genre d'édifice emblématique, c'est jamais inutile d'aller voir comment s'est bâtie leur fortune. Des fois, ça jette un autre éclairage sur la générosité de ces individus. Mais je ferme la parenthèse, aujourd'hui, près de 5 millions de personnes paient chacun au moins 26 euros, c'est 38 dollars canadiens, pour visiter la Sagrada Familia au cours d'une année normale. Et ces rentrées d'argent-là sont un facteur qui a permis de faire progresser le chantier plus vite au cours des dernières années et qui permettra peut-être d'y mettre la touche finale prochainement.